France Inter, Natacha Polony, Raphaël Glucksmann, le duel.
Mais j'imagine que vous allez aussi vous opposer sur ce sujet, le budget de l'Italie qui était au centre des attentions cette semaine avec la Commission européenne qui a retoqué le budget italien proposé par la coalition populiste au pouvoir à Rome. Écoutez, Matteo Salvini, c'était le 24 octobre.
Personnellement, je suis prêt à rencontrer demain le président de la Commission européenne pour lui expliquer comment l'Italie va se développer grâce à cette initiative. Mais personne ne tolérera qu'un euro soit retiré du budget.
Et c'était intéressant de voir sur la scène politique chacun choisir son camp, celui des règles et de la Commission ou celui du gouvernement italien. Écoutez la réaction de Jean-Luc Mélenchon. Il était interrogé mercredi à Strasbourg et le leader de la France insoumise déclarait ça.
On voit bien que c'est une dépossession de la souveraineté des nations, des États, des peuples, quoi qu'on pense des choix qu'ils ont faits. C'est la raison pour laquelle il faut évidemment prendre parti pour le gouvernement italien contre la Commission européenne, même si on désapprouve le gouvernement italien, ce qui est notre cas, tout en désapprouvant la Commission européenne.
Natacha.
D'abord, il faut regarder calmement les faits économiques.
D'abord, c'est-à-dire il faut choisir son l'économie... camp.
Non, avant de choisir son camp, on regarde les faits. Et on regarde où en est l'économie italienne.
C'est moins drôle.
Oui, je sais que c'est moins drôle. Mais ça permet après d'avoir un avis à peu près fondé. L'économie italienne, aujourd'hui, nous avons un déficit qui va passer à 2,4% du PIB. La règle, les critères de Maastricht, c'est 3%. La France fait bien pire.
Mais donc, vous ne tenez
c'est
pas
dans
compte
les règles.
De la dette.
Ensuite, oui, la dette. La dette italienne est possédée en majorité par des Italiens. C'est-à-dire qu'il y a moins de dépendance au marché financier que sur la dette française, par exemple. Donc, ça évite les risques que nous avons si nous augmentons indéfiniment notre dette.
Alors,
ensuite,
fait,
il y a le commerce extérieur
établi,
qui est positif pour l'Italie parce que l'Italie n'est pas encore désindustrialisée comme la France. Donc, économiquement, l'Italie, elle n'est pas dans les mêmes conditions que nous, et elle respecte les critères de l'Union européenne. Donc il y a un truc absolument ahurissant à voir ce budget refusé, ce qui est une première dans l'histoire de l'Union européenne.
Raphaël.
Non, malgré toute la version que j'ai pour cette coalition au pouvoir en Italie, ce qui est évident dans ce qui se produit, c'est que ça doit entraîner une discussion pan-européenne sur l'attitude de la Commission et sur le sens même de l'Union européenne. Parce que qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, au-delà de la discussion entre la Commission et
vous Sabine. Êtes du côté des règles et de la Commission
non,
ou du côté de la coalition
romaine?
Moi,
je suis du côté de la politique. Et donc, ce qu'on est en train de faire, c'est de poser le fait que la politique, désormais, appartient à ceux qui sont contre l'Union européenne. Parce que si vous présentez l'Union européenne comme étant simplement un ensemble de règles et de normes qui dépossèdent les démocraties de leur sens même, c'est-à-dire la capacité à choisir la politique qui s'applique dans un pays, eh bien, vous aboutissez à une solution très simple. C'est qu'on va avoir le choix entre ces règles et Salvini, et les gens vont voter Salvini.
Mais est-ce qu'on peut se débarrasser des engagements pris par les précédents gouvernements ?
On ne peut pas se débarrasser des engagements, mais par contre, on est en droit, puisqu'on vit dans un espace démocratique qui s'appelle l'Europe, on est en droit de poser la question de ces règles. On est en droit de remettre en cause le fait qu'une orthodoxie budgétaire devenue quasiment folle prive toute capacité au gouvernement de changer la politique
mais
sociale.
Mais c'est vrai qu'ils ont été décidés par les États.
Ont, oui, bien sûr, mais ils ont été
par les États qui imposent l'Union européenne.
Il y a une règle démocratique de base, ce qu'une génération a fait, la génération suivante peut le défaire. C'est ça la démocratie. Ouais. Vous n'emprisonnez pas les générations suivantes. Or là, c'est ce qu'on est en train de nous expliquer. Il y a eu des traités, donc c'est gravé dans le marbre, c'est fini, mais c'est aberrant.
C'est un peu la crise du politique actuellement. C'est-à-dire que c'est ce qui se passe aussi dans les traités internationaux. Ce qui se produit, c'est qu'en fait, on instaure des règles ad vitam aeternam, figées dans le marbre, et ensuite, qui va être responsable de surveiller l'application de ces règles? Des experts et des juristes. Or, quel est l'espace qu'il reste aux politiques? Quand le slogan du Brexit, Take Back Control, a fait à ce point de succès et est repris par l'ensemble des mouvements nationalistes, populistes à travers toute l'Europe, au lieu de s'en offusquer, il faut s'interroger sur le sens même et la légitimité de ce slogan. Il y a besoin, effectivement, que les citoyens reprennent une forme de contrôle sur leur propre destin.
Imaginons malgré tout que ça fasse exploser la zone euro. C'est un risque que pointe du doigt la Commission. Là, pour le coup, les Français que vous êtes seraient déstabilisés et critiqueraient le choix du gouvernement italien.
La Commission est en train de faire en sorte que les choix du peuple italien prennent le risque de déstabiliser la zone euro, puisque la Commission refuse de discuter avec le gouvernement italien. Or, il faut se méfier d'une chose. L'Italie est un laboratoire politique depuis des décennies. Regardez le berlusconisme qui a été cette espèce d'éclatement de la politique par la vulgarité. C'est arrivé là avant d'arriver chez nous ou ailleurs. Oui. Ensuite, vous avez eu Matteo Renzi, c'est-à-dire ce fantasme selon lequel on a... Alors avant ça, il y a eu le gouvernement des experts. Et les experts allaient imposer une gouvernance. Ça a été un fiasco. Matteo Renzi, le Macron avant Macron, ça a été un fiasco. Et on aboutit à cette alliance entre populistes de droite, d'extrême droite et populistes de gauche. Pardon, mais il faudrait peut-être à un moment donné ouvrir les yeux sur ce que ça...
Du coup, vous êtes tous les deux du côté du gouvernement italien.
Non, moi, je ne suis pas du côté du gouvernement italien. Je suis... très simplement, pas du tout du côté de la Commission dans son attitude.
Et donc, Jean-Luc Mélenchon a résumé le problème. On peut être contre le gouvernement italien et pour le fait que cette...
Et tout arrive, je peux même parfois être d'accord avec Jean-Luc Mélenchon. Et donc, je pense qu'il y a un réel problème politique. Enfin, il faut arrêter cet aveuglement-là. C'est cet aveuglement qui va produire le succès des populistes à peu près partout en Europe. Il faut que la politique reprenne possession de Bruxelles, c'est-à-dire qu'on assume qu'on peut débattre de ces règles.
Et justement, on va continuer de parler d'aveuglement.
France Inter, Natacha Polony, Raphaël Glucksmann. Le duel.
C'est une vidéo qu'on a absolument tous vue, cet élève qui menace sa professeure avec une arme factice dans le lycée Édouard Branly à Créteil, dans le Val-de-Marne, avec beaucoup de réactions. Écoutez notamment celle de Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation nationale. C'était jeudi.
Le but est tout simplement d'être réaliste, d'être lucide, ne jamais minimiser, ne jamais exagérer. Il faut être subtil et fin sur ces questions. Il faut toujours avoir à l'esprit que nous avons une mission éducative et que dans les éléments de cette mission éducative, il faut savoir sanctionner.
Il y a un hashtag pas de vague qui porte la parole de nombreux enseignants. Comment répondre à ce type de situation, Natacha ? Et estimez-vous que la réponse du gouvernement, à la fois Jean-Michel Blanquer et Christophe Castaner, le ministre de l'Intérieur, est à la hauteur ?
Alors, la réponse du gouvernement, elle est forcément immédiate et momentanée, alors que c'est un problème de fond. Donc la question n'est pas là, il va falloir sur le long terme réfléchir aux réponses. En revanche, ce qui est très intéressant dans ce hashtag, c'est qu'il a donné en réaction, il a fait apparaître en réaction tous les défauts, tous les drames du débat sur l'éducation aujourd'hui. C'est-à-dire que quand on a le hashtag MeToo, là tout le monde trouve ça extraordinaire, mais là, quand les professeurs libèrent leurs paroles, tout à coup, on a premièrement les statistiques qui viennent dire « Ah mais non, mais c'est faux, ce que vous voyez n'existe pas. Pourquoi ?» Parce que les statistiques sur la violence prennent en compte uniquement les coups, les blessures. Or là, heureusement, ça n'augmente pas. Et heureusement, tous les jours, on n'a pas une prof qui est braquée par un élève. Cela dit, là, on a un deuxième cas. Simplement, la violence quotidienne que subissent les professeurs, elle ne remonte pas dans les statistiques. Pourquoi ? Parce que quand vous vous faites traiter de sale pute dans un cours, vous n'allez pas forcément le dire. Et quand vous allez le dire et que votre proviseur vous dit « Non, vous avez mal entendu ce qu'a dit l'élève », c'est ça que racontent les enseignants. Donc déjà, les statistiques masquent la réalité. Et deuxième chose, on a vu apparaître des discours de gens qui disaient « Mais attendez, ces professeurs ont mal choisi leur métier. Après tout, ils critiquent leurs élèves. Quel scandale !» Pardon, mais quand on choisit d'être professeur, c'est pas dans le but de se faire insulter, c'est dans le but de transmettre, d'éveiller des consciences, et ça n'implique pas forcément de subir de la violence.
Il y a un réel problème qui est massif, qui est la place des professeurs dans notre société. Je veux dire, on était quand même une république fondée sur les professeurs. C'est dans les hussards noirs de la République, et aujourd'hui, que ce soit les violences, ou alors le statut social qui est réservé aux professeurs, le fait que, eh bien, sur un siècle, la place des professeurs, par exemple, en termes de revenus dans la société...
Mais le problème, justement, c'est le statut des profs, ou est-ce que ce sont les adultes, la société qui ne comprend pas, qui ne comprend plus certains jeunes.
D'abord, le problème, c'est la place des professeurs et l'autorité qu'ils exercent. Mais l'autorité, c'est pas simplement le fait de pouvoir sanctionner. L'autorité, c'est la place dans une société. Où est-ce qu'on se place et dans quelle position la société nous met. Et par ailleurs,
c'est beau comme du Natacha Polony. Bah,
non, pas du tout. Enfin, excusez-moi, pas du tout. J'allais
les
dire.
Les photos de Natacha cette semaine, qui est titrée au professeur la patrie reconnaissante.
Ok.
Et qui parle de ce problème-là. C'est
aussi une question de revenus, par exemple. Oui. Auparavant, dans cette l'échelle question, des revenus, auparavant.
La question de la vidéo du lycée.
Oui, mais c'est pas une question de revenus.
C'est
pas une question de revenus. Mais tout ça fait partie de la même dépréciation, en fait, en réalité, du professeur des écoles publiques. L'autre question, c'est qu'on fait porter à l'école, en règle générale, dans le débat sur l'école, une responsabilité trop forte pour l'école. L'école, elle s'insère dans une société, elle s'insère dans des quartiers. Et donc, c'est ces quartiers et cette société qui sont profondément malades, en fait. Et l'école, elle devient le réceptacle de problèmes qu'elle ne peut pas gérer seule. C'est-à-dire qu'on pourra mettre des policiers partout, on pourra changer des règles de fonctionnement au sein de l'école. N'empêche que la violence sociale générale qui entoure l'école, eh bien, arrivera toujours à pénétrer dans ces murs.
Natacha, vous distinguez la manière dont le hashtag MeToo a été accueilli par la société, par les sociétés, notamment ici en France, et la manière dont le hashtag Pas de vague, lui, est accueilli, comme si la parole des profs était accueillie d'une toute autre manière que la parole des femmes qui se plaignaient de la domination masculine, des agressions.
Oui, parce que là, c'était progressiste et c'était formidable, alors que curieusement, les professeurs, c'est pas progressiste quand ils disent la réalité. Vous savez, on en est à souhaiter que Gérald Davet et Fabrice Lhomme, les journalistes du Monde, lancent une grande enquête sur les violences que subissent les profs, parce que Inch'Allah. Peut-être que comme ça, on pourra enfin en parler réellement.
On en parle, sauf
que c'est, il y a encore du déni. Et surtout, je pense que là
du
où
déni.
Vous avez... Bien sûr,
il y avait déni sur le...
Oui, vous c'est... avez raison mais sur un point, Raphaël, c'est-à-dire que c'est un ensemble, la place des professeurs. Enfin, vous avez raison sur les deux points que vous avez abordés. La question de la place des professeurs. Les sociétés où l'école va bien sont en général des sociétés où les professeurs sont davantage rémunérés. Nos professeurs sont payés deux fois moins que les professeurs allemands. Ça a un sens.
Mais ça,
allez
okay.
voir au Japon, en
mais
Corée du Sud,
déni,
comment ils sont
Natacha.
Traités. Ensuite, deuxièmement, sur la question de la violence en général et la porosité avec l'école. Oui, c'est vrai, la violence est partout. Nous montrons dans Marianne les statistiques de la violence des mineurs. C'est 9,7% d'augmentation depuis 2010. La violence pure, de plus en plus forte et de plus en plus jeune. Simplement, justement, les professeurs sont très tôt une des incarnations de l'autorité. Ils doivent avoir les moyens de faire respecter les limites très tôt, parce qu'une fois qu'on en arrive au lycée, c'est trop tard. Donc il faut que leur hiérarchie les soutienne. Or, encore une fois, nous sommes encore dans une période, on n'est pas sorti de là, où la hiérarchie préfère ne pas faire de vagues. Les professeurs ont raison.
Il faut que leurs autorités les soutiennent, évidemment. Il faut que la violence soit sanctionnée très tôt, vous avez raison. Mais il faut aussi qu'il y ait un projet qui installe cette autorité. Quand on dit, à l'époque, les professeurs étaient respectés, c'était pas simplement parce qu'il y avait des coups de règle qu'ils étaient respectés. C'était parce que ça faisait partie d'un projet républicain,
évidemment,
dans son ensemble, dont ils étaient l'incarnation, l'avant-garde, et que du coup, ils avaient une légitimité évidente aux yeux de tous. Donc moi, ce que je voudrais dire, c'est qu'en fait, à chaque fois qu'on a ces problèmes de violence, on va parler d'un secteur en particulier, en l'occurrence l'éducation,
oui.
Mais en réalité, c'est l'ensemble de la République à chaque fois qui est en crise, et qui donc... Quand on a une avant-garde comme l'école, qui est quand même l'avant-garde républicaine par excellence, eh bien, c'est la crise de la République qui se répercute sur le manque d'autorité ou sur la remise en cause de l'autorité
des personnes qui sont dans le déni. Oui,
ça
va avec ce que vient de dire Raphaël. C'est-à-dire que le problème, en effet, c'est celui du sens de l'école républicaine. Le projet républicain, c'est l'émancipation des individus par le savoir. C'est l'idée qu'on va leur apporter ce savoir et qu'ils deviendront des individus libres qui pourront ensuite exercer leur rôle de citoyen. À partir du moment où vous cassez cela, où vous transformez d'abord dans la société les individus essentiellement en consommateurs et rouages du mécanisme économique, et qu'ensuite, dans l'école, vous expliquez que le rôle de l'école, c'est d'épanouir les individus et de les aider à faire fructifier leur capital personnel, mais que ce n'est plus le choix de la République de les élever et de leur donner les moyens de maîtriser le monde, vous tuez le sens du métier de professeur. Et donc, vous n'aidez pas ces professeurs à exercer une autorité et à savoir qu'ils sont légitimes pour imposer des choses à des élèves au nom du bien commun.
Encore un mot, Raphaël, sur le sujet.
On doit évidemment non pas former des rouages mais former des citoyens et des individus éclairés à l'école. Le seul problème, c'est que les pays, justement, vous avez cité l'Allemagne, où les professeurs sont plus valorisés par la société, ne sont pas les pays qui ont l'école la plus verticale et la plus fermée.
Ça veut rien dire, verticale.
Mais c'est la vidéo de ce lycéen qui braquait une enseignante, c'est impensable en Allemagne ?
Ah, non, rien n'est impensable nulle part, parce que de la violence, il y en a partout, c'est pas ça le problème.
Mais il y a quand même une certitude, c'est que il y a des pays où l'école fonctionne mieux aujourd'hui qu'en France, où il y a moins de violence et où les résultats sont meilleurs. Donc,
nous sommes le pays où il y a le plus de problèmes de discipline. Les enquêtes PISA le montrent.
Donc ça veut dire qu'on peut s'inspirer de leur modèle éducatif aussi.
Oui, mais pas uniquement la Finlande sous prétexte qu'il n'y a pas de redoublement. Vous voyez, il faut regarder tous les modèles.
Oui,
et la question de la verticalité.
Mais généralement, quand même, dans la critique de l'école.
Mais aller dans les classes françaises, il n'y a pas de verticalité, il n'y a pas de cours magistral, ça n'existe plus depuis longtemps.
D'accord, mais dans la critique générale, on fait comme si les autres pays n'existaient pas. Or,
il se trouve
que les pays qui ont le mieux réussi ne sont pas les pays des coups de règle et des blouses.
Pardon, mais les premiers dans toutes les enquêtes sur le niveau en lecture, en lecture et en sciences, c'est la Corée du Sud, c'est Singapour. On n'en voudrait pas de ces modèles-là. Ça, c'est vertical.
On peut comparer aux pays voisins de la France. On fait partie quand même d'un ensemble qui s'appelle l'Europe. Et il y a des pays qui ne sont pas aussi loin que Singapour ou la Corée du Sud et qui réussissent mieux.
Parce que l'Allemagne avait des gros déficits et a agi pour reconstruire un système éducatif qui fonctionne, en effet, parce qu'ils ont regardé les enquêtes PISA et qu'ils se sont dit qu'il y avait un réel problème.
Avant d'accueillir notre invité, encore un sujet.
France Inter, Natacha Polony, Raphaël Glucksmann, le duel.
Sujet d'actualité, Raphaël, vous vouliez revenir sur cette initiative de maires de plusieurs villes françaises, d'ONG, qui ont demandé mardi au groupe pétrolier Total d'agir pour limiter le réchauffement climatique, faute de quoi ils pourraient attaquer Total en justice.
Voilà, et donc ça me semble essentiel en fait, parce qu'il y a comme ça une vague écologique, et c'est formidable, et c'est ultra nécessaire. Et il y a un discours qui tend à dire que chacun est responsable de l'avenir de la planète, ce qui est totalement vrai, qu'il faut économiser l'eau, qu'il faut trier ses déchets. Mais ça, c'est fondamental, il faut le faire. Simplement, ce n'est pas suffisant. Or, pourquoi ce n'est pas suffisant ? Parce que les grandes compagnies pétrolières en particulier sont responsables de la majorité des pollutions. Et que donc, il n'y a que le politique qui peut contraindre ces compagnies à changer le cours des choses et la manière dont elles nous amènent tous dans le mur. Et donc, je trouve ça extrêmement important, ce qui se passe. C'est-à-dire qu'on met, enfin, les principaux pollueurs face à leurs responsabilités. Et c'est ça, l'initiative de ces maires. Et c'est, à mon avis, essentiel. Et ça oblige le gouvernement, à un moment donné, de, s'il veut « make the planet great again », eh bien, de s'attaquer...
Punir.
Ben non, mais oui, d'obliger...
Sanctionner.
D'obliger Total à changer.
Natacha.
C'est vrai à ceci près qu'en fait, là, c'est pas le politique qui reprend la main, c'est le juridique. Et moi, ce que je préférerais, c'est que nous puissions... politiquement, faire en sorte de ne pas avoir des gouvernements qui soient vendus aux lobbies. Ce serait, à mon avis, la seule façon réellement de réorganiser la société.
Mais en attendant, puisqu'il se trouve que là, on n'a pas un gouvernement qui a pris ça à bras-le-corps.
Non, pas vraiment.
Voilà, donc en attendant, cette initiative, elle est parfaitement louable. C'est comme ceux qui disent...
Nous sommes d'accord, mais après, c'est la question du rôle du juge par rapport aux politiques.
Mais regardez aussi les citoyens. Regardez ce moment où Nicolas Hulot quittait le gouvernement. Il était regretté. On se souvient de ses larmes. Moins de 2 mois après, tout le monde se crispe sur l'augmentation des prix du diesel.
Oui, mais parce qu'on a une capacité... incroyable à zapper. Et c'est le drame de notre société et c'est ce qui ne nous permet pas de lutter efficacement contre le réchauffement climatique parce qu'en fait,
Je
peux finir. Quand il y a 15 000 scientifiques qui vous disent demain il sera trop tard et il y a des mesures simples à mettre en place, eh bien, on est tous alertés et 2 jours plus tard, on se préoccupe d'autre chose. Là, la véritable question qui est posée, c'est comment fait-on pour que cette transformation écologique qui est absolument nécessaire et qu'on ne doit pas zapper ne soit pas socialement injuste.
Bah, c'est un peu ça
et donc,
le problème.
C'est le transfert, que la fiscalité verte doit être une fiscalité de transfert.
Oui, mais il faut surtout réfléchir à l'ensemble du système économique. C'est-à-dire que pour l'instant, on se contente d'augmenter les prix du diesel, de l'essence. C'est très bien. Ça touche ceux qui n'ont pas le choix de ne pas prendre leur voiture, tout simplement parce que la désindustrialisation fait que vous avez des pôles entiers des villes moyennes qui sont en train de crever. Et du coup, le travail est de plus en plus éloigné du domicile. Ou alors, il faut que les gens se regroupent dans les métropoles. Donc, c'est par la réindustrialisation, par la reconstitution de bassins économiques, une relocalisation de l'économie, qu'on peut mettre en place des mesures économiques. Vous ne pouvez pas penser l'un sans penser l'autre. Des mesures écologiques, pardon.
C'est pour ça que Nicolas Hulot avait raison quand, dans les locaux de cette radio, il a dit qu'il y avait un problème de système.
Bien sûr.
C'est un problème de système.
C'était son pacte écologique de 2006,
ce n'est pas mesure par mesure qu'on va y arriver.
Et il a
frappé
les consciences.
Systémique.
Mais les mêmes consciences qui s'indignaient de l'augmentation du prix du diesel.
Mais oui, mais parce qu'en fait, il faut un projet global. Et c'est ça que Nicolas Hulot reprochait au gouvernement quand il dit ils n'ont pas pris la mesure des périls et la mesure des transformations à mener.
Ouais, c'est qu'en fait, on ne peut pas faire... Pour l'instant, on fait payer les pauvres.
On ne peut pas faire pas par pas. En fait, l'écologie des petits pas ne fonctionnera pas. Et il faut un projet et que l'écologie soit perçue comme un projet de transformation de la société et pas simplement comme un projet qui va renforcer des inégalités sociales.